clé secrète de l'univers. Dominique Demichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les âmes. Vous connaissez probablement maintenant notre émission Les clés secrètes de l'univers, le feuilleton cosmique diffusé sur l'antenne depuis plusieurs semaines. Si vous avez manqué un épisode, retrouvez-le sur le site de la radio. Nous sommes engagés dans un grand voyage, dans le temps et l'espace, du Big Bang à nos jours. Et peut-être avez-vous reconnu notre générique, c'est la musique que Stanley Kubrick a utilisée pour l'ouverture de son film, datant de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, à partir d'un scénario de Arthur C. Clarke. Pour ce parcours, nous avons la chance d'avoir un grand éclaireur qui nous accompagne et nous explique tout. Il s'agit de Michel Galliana Mingo qui a publié un ouvrage que je vous recommande fortement, Les clés secrètes de l'univers, publié chez EDP Science. Michel, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Alors, nous en étions où la dernière fois ?
Eh bien, nous arrivions au trou noir. Nous avions parlé des galaxies et de la façon dont se forment les étoiles. Mais il ne se forme pas que des étoiles, il se forme aussi des trous noirs, c'est-à-dire des objets finalement qui échappent beaucoup au sens commun. Ils échappent d'ailleurs tellement au sens commun que Einstein n'y croyait pas. C'est d'autant plus étonnant que le trou noir se décrit grâce aux équations de la relativité générale d'Einstein. C'est donc, on peut dire que Einstein est le père des trous noirs en fait, mais lui-même n'y a jamais cru. Il disait que c'était certes des solutions aux équations, mais qu'une solution mathématique n'est pas forcément physique. Il n'y croyait pas, il n'y a jamais cru, et jusqu'à sa mort en 1955. Alors, que sont ces trous noirs ? On sait qu'un trou noir, c'est un astre très dense et tellement dense que rien ne peut lui échapper.
Vous savez, et dense, ça veut dire que parmi ces deux forces, que sont la gravitation et la force d'expansion, il y en a une qui a gagné, c'est ça ?
Oui, alors là, au niveau de l'astre, il n'y a pas vraiment de force d'expansion, mais il y a la gravité, et la gravité, elle est d'autant plus forte qu'un astre est grand. Vous savez que sur la Lune, on voit les astronautes sauter, et ils peuvent faire des bonds de 6 mètres de haut, parce qu'il y a très peu de gravité. Par contre, sur la Terre, on peut sauter d'un mètre. Et puis, si on se trouvait sur un astre de la taille du Soleil, on pourrait sauter peut-être d'un millimètre ou pas plus. Donc, on est attiré par la masse de l'astre. Et déjà au XIXe siècle, on avait conçu que si un astre était suffisamment pesant, il retiendrait tout sur sa surface, y compris la lumière. Et Laplace, qui était à l'origine de cette idée, avait qualifié ce type d'astre du mot d'astre occlus. Occlus parce que la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors maintenant, pour bien comprendre le trou noir, il faut faire appel à la relativité générale. Vous vous souvenez peut-être que nous avions commencé par là, notre parcours dans la cosmologie, en disant que les masses créent des creux dans l'espace-temps, des espèces de dépressions, de trous, si vous voulez. Et c'est ce qui crée la gravité ou la gravitation. La Terre crée une espèce de trou dans l'espace-temps, et la Lune est en orbite autour parce qu'elle s'est piégée dans ce trou. Eh bien, si l'astre est suffisamment lourd et dense, et ce trou devient infini. Et là, tout ce qui tombe dans le trou est devenu totalement irrécupérable et ne peut plus en sortir. Voilà ce qu'est un trou noir sur un plan théorique.
Alors, on comprend bien, par exemple, que si, je vais dire un petit peu quelque chose de bébête, que si je lance une petite bille en verre avec laquelle je jouais quand j'étais enfant près d'un trou noir, la bille va être attirée de manière fantastique vers ce trou noir et avalée par le trou noir. Pour la lumière, c'est un peu plus compliqué. Comment vous nous expliqueriez ça que
Oh, ben,
la...
je le dirais très simplement, vous
Oui?
savez que la matière est faite de photons et des particules, et la petite bille de métal dont vous parlez est faite d'autres types de particules, et donc là, les deux subissent le même sort, elles sont attirées dans le trou
D'accord.
noir. Voilà donc ce qu'est un trou noir. En résumé, c'est un objet très très dense. Vous allez voir la densité, je vais vous donner quelques chiffres. Très très dense et tellement dense que en fait, il emprisonne tout ce qui tombe près de lui. On parle d'un horizon, c'est-à-dire qu'il y a une sphère autour du trou noir.
Oui.
Et dès que vous franchissez cette sphère, qu'on appelle l'horizon, là, vous tombez irrémédiablement dans le trou. Et c'est pour ça que un trou noir, si on pouvait le voir, on verrait un disque noir, si vous voulez, et qui correspond à cet horizon. Et en dessous de cet horizon, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Tout est opaque, tout est occlus, comme disait Laplace au XIXe siècle. Alors maintenant, je vous disais qu'un trou noir, c'est très dense. Bien oui, on l'avait déjà dit la dernière fois. Si on comprimait la Terre, imaginez qu'on ait une machine qui nous permette de comprimer un astre de la taille de la Terre. Pour en faire un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à une masse, jusqu'à un volume de 2 cm3, disons la taille d'un dé à coudre. Voilà. Un trou noir de la masse de la Terre a pour volume un dé à coudre. Et c'est ce qui rend les trous noirs extrêmement difficiles à observer. D'abord, ils sont noirs, donc on ne peut pas les voir eux-mêmes. On voit les perturbations qu'ils provoquent dans leur périphérie, leurs alentours. Mais une autre raison pour laquelle ils sont très difficiles à observer, c'est qu'ils sont très petits. Voyez la masse du Soleil, qui est quand même beaucoup plus grosse, qui est un astre beaucoup plus gros que la Terre. La masse du Soleil, comprimé en trou noir, ferait 6 km, c'est-à-dire la taille d'un astéroïde. C'est donc une forme de matière extrêmement dense, et c'est pour cela qu'Einstein n'y croyait pas. Ça lui paraissait totalement hors de propos par rapport à son intuition physique. Alors il avait totalement tort, il avait totalement tort parce que maintenant on les connaît, les trous noirs. Je me souviens des premières conférences que j'ai faites là-dessus dans les années 70. Je parlais des premiers trous noirs et j'employais le mot candidat trou noir. Candidat trou noir, cela voulait dire qu'on pensait qu'il s'agissait de trous noirs, mais qu'on n'en avait pas la preuve. Et on commençait à observer les tout premiers trous noirs par les effets cataclysmiques qu'ils déclenchent autour d'eux, puisque le trou noir lui-même, on ne le voit pas. Comme
Et qu'il ne fait
ceci.
pas très bon s'en approcher.
Voilà, exactement. Et les trous noirs déclenchent dans leur environnement des cataclysmes extrêmement puissants. C'est grâce à cela qu'on les voit.
Ça dépend un petit peu de leur taille quant à
Oui, tout
leur
à fait.
effet.
Tout à fait. Et c'est pourquoi les premiers trous noirs que l'on a perçus, ce sont des trous noirs très gros et très lointains qui nous apparaissent. Alors très lointains, hein, je parle de milliards d'années-lumière, hein, c'est très très loin. Et ces trous noirs nous apparaissaient comme des flashs de lumière. Et c'est ce qu'on a appelé des quasars. Quasar, ça veut dire quasi-star en anglais, c'est-à-dire presque étoile. Et pourquoi employons-nous ce mot à l'époque? Et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est parce que ces flashs de lumière ressemblaient à des étoiles au loin, très très loin, mais comme on savait qu'ils étaient très loin, ça on le détecte par la lumière, on sait qu'ils sont très loin, on ne comprenait pas qu'un objet aussi lointain puisse apparaître comme une étoile. Et donc une quasi-étoile, un quasi-quasi-star ou quasar, c'était une lumière qui venait de très très loin et qu'on n'aurait jamais dû voir. Elle était forcément extrêmement puissante. Alors on sait
Et
maintenant
au
que.
fond, c'est des choses qui, pour voir, ça brille comme s'il y avait plusieurs centaines de galaxies, par exemple.
Oui, c'est ça, l'ordre de grandeur est là. On peut voir une lumière qui, lorsqu'on la mesure, représente autant d'énergie qu'une galaxie entière. Alors, maintenant, on sait ce que c'est. Ce sont des gros trous noirs et la lumière est émise lorsqu'ils avalent un objet, au moins comme une étoile. Donc, une étoile qui est avalée par un trou noir, ça fait un très grand feu d'artifice. Voilà donc les premiers trous noirs qu'on a observés. C'était en fait de très gros trous noirs et situés très loin. Et ils posaient une question parce qu'on ne comprenait pas qu'un objet puisse ressembler à une étoile tout en étant à une distance tellement, tellement gigantesque qu'on n'aurait jamais dû la voir.
Leur énergie, finalement, leur énergie ou leur luminosité, vous me corrigez après, cette énergie diffusée ou utilisée par les quasars provient du trou noir, c'est ça?
Oui, le quasar est un trou noir. Et ce qui se produit, c'est que lorsqu'il avale
une
étoile...
En même temps, je ne sais pas bien, parce que vous me dites les trous noirs, on ne les voit pas, et les quasars, ça fait, c'est une source de lumière extrêmement intense.
Oui, parce qu'on ne voit jamais le trou noir, mais on voit les effets qu'il produit autour de lui. Et il produit des cataclysmes, et alors, lorsqu'il avale une étoile, là, ça fait... un cataclysme très important. Vous avez des cataclysmes encore plus importants si deux trous noirs s'avalent mutuellement ou dans les cas où il y a des fusions de galaxies, par exemple. Il y a donc des phénomènes cataclysmiques déclenchés autour du trou noir qui, eux, rayonnent très très loin.
Bon, Michel, allez, je vous laisse. Nos 15 minutes sont quasi passées. C'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans ces trous noirs. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez nous emmener où?
Eh bien, on va continuer sur les trous noirs, parce qu'il y a tout de même beaucoup à dire sur les trous noirs, et aussi beaucoup de mystères.
C'est quand même très fascinant. Michel, bonne semaine, bonjour à tous nos auditeurs, et nous nous retrouvons ensemble pour... la suite de notre feuilleton cosmique la semaine prochaine. Au revoir, au revoir Michel.
À bientôt. We'll be right back.